La Sangha est invitée à retourner à sa respiration, afin que l'énergie de la pleine conscience puisse nous rassembler comme un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Puisse la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, écouter comme un seul corps, chanter comme un seul corps, transcendant les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
En pratiquant la voie. sont parfaites, pour ça son regard éclairé sur les saints scandales. Et les trouve apparemment vides après cette pénétration. Il effaça toute souffrance et coucha Riputra, la forme est vie et le vide est forme. La forme n'est pas différente du vie et le vie n'est pas différent de la forme. Il en va de même pour les sensations. Il en va de même pour les perceptions. Il en va de même pour les formations mentales et la conscience et Kushariputra. Tous les phénomènes ont pour nature le vide. Ils ne sont ni produits, ni détruits, ni impurs, ni purs, ni croissants, ni décroissants. Par conséquent, dans le vide, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher. Ni objet mental, il n'y a pas de sphère d'éléments, des yeux à la conscience mentale, ni d'origine interdépendante, ni d'extinction de ces dernières, de l'ignorance à la vieillesse et à la mort. Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni extinction de la souffrance, ni voix, ni compréhension, ni réalisation, parce qu'il n'y a pas de réalisation. Tous les bodhisattvas, grâce à la perfection de la compréhension, ne trouvent aucun obstacle et surmontent la peur, se libérant ainsi et pour toujours de l'illusion. Il réalise parfait nirvana tous les bouddhas du passé, du présent et du futur. Grâce à cette compréhension parfaite, parvient à l'éveil authentique et universel. C'est pourquoi il est bon de savoir que la compréhension parfaite est un grand mantra. Le plus élevé, le mantra inégalé, le destructeur de toute souffrance, la vérité inaltérable, le mantra de la Prajnaparamita, gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhisattva, gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhisattva, gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhisattva.
Cher Sangha, aujourd'hui c'est le 5 janvier l'an 2014. On ne sait pas où est passé l'an 2013. Nous sommes dans la salle de méditation, l'eau tranquille du hameau du Haut pendant la retraite d'hiver, l'an 2013-2014. En l'an 2013, nous avons agi tous les jours, nous avons commis des actes, nous avons pensé, nous avons parlé, nous avons fait des actes. C'est ce qu'on appelle le karma. Et bien sûr, l'an 2014, nous allons récolter les résultats des semences, les fruits de ce que nous avons semé en l'an 2013. Et donc l'an 2013 continue toujours. Il n'est pas passé, il n'est pas parti. Et il faut faire en sorte que nos pensées pendant cette année aient la couleur de la pensée juste. La pensée juste signifie la pensée qui a la compréhension et la compassion. Et ainsi, nous semons de bonnes graines pendant toute l'année. Et nous allons parler de manière que toutes nos paroles contiennent la compréhension et l'amour. C'est la parole juste. Il faut en faire en sorte que pendant toute l'année, on ne prononce que de telles paroles. Vaut mieux de ne rien dire, mais quand on dit quelque chose, ces paroles contiennent l'amour et la compréhension, et comme ça, on récoltera de bons fruits. Et aussi, pendant toute cette année, ce que nous allons faire comme acte, comme action avec notre corps, dans ce que nous mangeons, nous consommons, dans notre travail, nous faisons en sorte que nos actions contiennent la compréhension et l'amour. C'est le karma du corps. Et nous savons que c'est une sorte de semer, une manière de semer. Et si nous semons de bonnes graines, certainement nous allons récolter de bons fruits, de beaux fruits pour cette année et l'année prochaine. Et ainsi, nous tenons notre sort en main. Au village des pruniers, nous allons l'opportunité de nous asseoir ensemble. Dans nos activités, tous les jours, nous avons l'opportunité de nous asseoir ensemble pour écouter l'enseignement, pour faire la méditation assise, pour manger. C'est la culture. Parce que dans la société, dans notre nouvelle société, la famille, des parents avec les enfants, et nous sommes tellement occupés qu'on n'a plus le temps de s'asseoir ensemble en tant que famille. Nous n'avons plus la chance de manger ensemble. Il y en a qui mangent en premier, d'autres mangent plus tard, selon notre emploi du temps, et nous perdons beaucoup. Autrefois, au repas, personne n'a le droit d'être absent. Même si on n'a pas faim, on s'assoit quand même avec toute la famille parce que c'est l'heure sacrée. Maintenant, nous sommes plus civilisés, c'est ce que nous disons, mais c'est le contraire, nous ne le sommes pas parce que nous n'avons plus le temps de nous asseoir ensemble au repas. Autrefois, la famille s'asseyait ensemble très souvent le soir à la pleine lune. En Asie, toutes les familles s'assoient ensemble au clair de lune. Et parfois quand la lune était tellement claire que toute la famille dînait au clair de lune. Et nous avons perdu tout ça. Avec notre civilisation d'aujourd'hui, nous travaillons trop. Nous travaillons beaucoup pour avoir plus d'argent, mais en réalité, nous ne sommes pas aussi heureux qu'avant. C'est pour ça, dans l'avenir, si nous voulons nous diriger vers le bonheur, alors il faut penser, il faut réfléchir pour réorganiser notre vie familiale. Comment faire pour que tous les jours, notre famille ait la chance de s'asseoir ensemble. Et le repas est une chance, est une opportunité très importante. Et avant de manger, nous nous regardons, nous respirons tranquillement pendant quelques respirations pour voir bien que nos bien-aimés sont encore vivants à côté de nous. Et c'est très important. Ce n'est pas difficile, mais il est devenu très difficile à cause de la structure de notre société. Alors, dans un centre de pratique, comme au village des Pruniers, nous essayons de garder tout ça, la valeur d'une famille. Tous les jours, nous avons le temps de nous asseoir ensemble. Nous n'avons pas besoin de parler, simplement, nous nous asseyons ensemble. Et tous les jours, nous avons la chance de marcher ensemble. Nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit pendant avec des centaines de personnes. Nous marchons ensemble tranquillement. Et c'est ça, la civilisation. Nous voyons la présence l'un de l'autre et nous chérissons la présence des autres. Et au repas, nous sommes tous ensemble, même si nous n'avons pas faim. Nous allons au repas pour voir les autres, pour offrir notre présence. Et au village des Pruniers, à chaque repas, nous lisons les cinq contemplations. Et en général, nous lisons, mangeons de manière que nous ayons la tranquillité, la paix, la fraternité, le bonheur, ces trois choses. Alors, le repas est une opportunité de générer ces trois choses. Premièrement, c'est la liberté, tranquillité. En vietnamien, nous avons des mots comme les autres mots équivalents pour la liberté, la tranquillité. La tranquillité signifie on n'est pas très occupé. Dans notre monde, il semble que tout le monde est trop occupé. Il faut la tranquillité. Nous avons le mot nyan en vietnamien, signifie tranquillité, cela signifie qu'on n'est pas occupé. En anglais, c'est leisure time, le temps libre. Et en chinois, le caractère nyan, on l'écrit comme ça. Et ce caractère est très beau. Il est fait du caractère porte. mon, les deux, la porte, fenêtre ou porte. Et à la porte, à l'extérieur de la porte, il y a la lune. C'est-à-dire, on regarde la lune à travers la fenêtre. Et ce caractère signifie la tranquillité, c'est-à-dire les personnes qui sont tranquilles, qui ne sont pas trop occupées, ils voient la lune. Elles voient la lune. Et c'est comme ça que ce caractère se forme. Dans le bouddhisme, nous avons le mot Vimukti en sanskrit signifie liberté, libération, c'est-à-dire nous ne sommes pas liés, attachés. Et le but principal d'un pratiquant, c'est de ne pas être lié, attaché. Par quoi ? Par des liens. Parfois, nous attachons nous-mêmes ou bien nous demandons, nous laissons les autres nous attacher. S'il vous plaît, attachez-moi. Et quand nous sommes attachés, quand nous sommes ligotés, nous ne sommes plus libres, nous ne sommes plus tranquilles. Et ces liens sont d'abord les occupations, les soucis, la colère, la haine, l'avidité. Ce sont les liens les plus solides. Alors, soucis, le lien de soucis. Et puis le lien de la colère, de la haine, le lien de la jalousie. Le lien de l'angoisse. Du complexe d'infériorité. Ou de supériorité. Nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres ou inférieurs aux autres. Ou bien égal aux autres. C'est le complexe d'égalité. C'est aussi un lien. Alors, ce sont les liens universels. Et puis, il y a aussi le lien de l'ignorance. Il y a les perceptions fausses à propos de nous-mêmes, à propos à l'autre personne, à propos de l'autre personne, à propos du monde. Alors, on doit trancher ces liens. On doit couper ces liens. Et quand nous coupons ces liens, nous avons la tranquillité, la liberté, c'est-à-dire la libération. En vietnamien, il y a le mot goi, un mot ancien, qui est devenu Goi plus tard, et le roi Chong Yang Tong. Chong Yang Tong était roi, mais il a laissé sa trône à son fils pour devenir moine, parce qu'il chérissait la tranquillité, la liberté, parce que en tant qu'homme politique, il avait beaucoup de soucis. Il s'inquiétait beaucoup et vers la fin de sa vie, il a laissé son trône à son fils, et parce qu'il voulait la tranquillité. Mais la tranquillité ne signifie pas ne rien faire. Ce roi a cherché les pratiques concrètes pour couper ces liens. Et c'est ça la pratique. Quand il est devenu moine, il continuait à travailler beaucoup pour aider son pays. Son fils était sur le trône pour faire la politique, et lui, le père, il voyageait partout dans le pays pour aider, pour voyager et éduquer le peuple, leur conseiller de pratiquer les 5 entraînements à la pleine conscience. Et c'était aussi un engagement, un travail engagé. Il s'occupait de l'éthique, hein, de son peuple. Il travaillait beaucoup. Et même s'il montait dans la montagne Intu, mais il ne quittait pas son monde. En tant que moine, il coupait ses liens pour pouvoir aider le monde davantage. Et il a écrit un texte, Ku Chang Lak Dao. À cette époque, il n'y avait pas encore le vietnamien écrit avec les lettres alphabétiques, comme le latin, mais le vietnamien était comme le chinois. Et il a écrit dans ce texte une phrase. Le plus important, c'est d'avoir la tranquillité, la liberté. Il n'y a aucune autre pratique plus importante. La pratique la plus importante, c'est de devenir, c'est d'être tranquille, libre. Alors, chacun, chacune d'entre nous, quand nous avons la chance de nous asseoir, il faut regarder profondément pour voir si nous sommes attachés par quel lien. Il faut reconnaître, identifier les liens qui nous attachent. Il faut les identifier, les reconnaître pour pouvoir les couper, ou pour pouvoir délier. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes attachés, ligotés. Alors, il faut nous libérer. Si nous avons la colère, la haine qui nous poursuivent, alors la colère, la haine sont des liens qui nous ligotent. Et il faut apprendre, il faut chercher, il faut apprendre de notre maître, de nos amis, pour pouvoir nous libérer de ces liens. Et parfois, ces liens nous ligotent pendant toute notre vie. Il faut trancher net tous ces liens. Le lien de la colère, de la haine. Il y en a qui ont la haine et la colère en eux pendant toute leur vie. Il y en a qui sont ligotés par les liens par le lien de l'avidité. Ils ont soif d'une position social ou d'un titre. Ils ont un objet de l'avidité à poursuivre pendant toute leur vie. et nous pouvons regarder profondément si nous sommes ligotés par ce lien. Alors, la vertu la plus belle est la capacité d'être heureux. Demandons-nous la question, est-ce que je suis capable d'être heureux, heureuse? Est-ce que j'ai cette capacité? Si la réponse est non, je ne suis pas capable. Pourquoi? C'est parce que vous êtes ligoté par des liens. Alors, il faut vous libérer. Par exemple, tout le monde fait la marche méditative. Qu'est-ce que c'est la marche méditative? C'est une opportunité de tout relâcher, de relâcher tous les soucis, les projets, pour faire des pas qui nous apportent la joie et le bonheur. Intellectuellement, nous savons que chaque pas en pleine conscience, chaque pas tranquille peut nous mettre en contact avec les merveilles de la vie dans le moment présent. Et ces merveilles de la vie sont capables de nous nourrir et nous guérir. Chaque pas nourrit, chaque pas est un miracle. Chaque pas guérit, chaque pas est la joie. Ayant un corps humain et des jambes pour marcher, pour nous promener, c'est une grande chance. Et si nous ne sommes pas malades, alors chaque pas peut nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Mais quand les autres marchent, nous marchons avec eux, les autres peuvent générer la joie et le bonheur. Mais pourquoi moi, je ne peux pas générer la joie et le bonheur avec mes pas? La réponse est, c'est parce que tu es ligoté par des liens. Parce que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre, tu n'es pas libéré. C'est pour ça, pendant que les autres savourent leurs pas, toi, tu marches comme un robot. Tu pratiques avec la forme. Et ta marche méditative n'a aucune substance. C'est pour ça qu'il faut nous asseoir et nous poser la question. Par quel lien je suis ligotée? Et on doit couper ces liens avec notre détermination. Mais la détermination ne suffit pas. Il faut être intelligent. Au moins, il faut l'éveil. On peut pas laisser des liens de la haine, de la colère nous ligoter pendant toute la vie. C'est pas possible. Combien notre vie dure? Combien de temps notre vie dure? Et pourquoi tous les jours, on n'est pas heureux? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre d'autres choses? Et quand nous avons les visions profondes comme ça, nous pouvons lâcher prise et nous pouvons couper ces liens. Nous voyons que nous ne sommes pas intelligents. Nous sommes stupides parce que nous gaspillons notre vie. Et quand la vision est claire, nous pouvons lâcher prise. Ce qui est le plus important, c'est notre liberté. Sans la liberté, nous n'avons rien d'autre. Et dans la civilisation d'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont libres. La plupart est occupée. Il y en a qui sont très riches, qui ont des milliers de dollars dans leur compte bancaire, mais ils ne sont pas libres. Il y en a qui sont très célèbres, mais qui ne sont pas libres. Il y en a qui ont beaucoup de pouvoir, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas libres. C'est pour ça que le roi Zhang Yongtang a clairement dit que ce qui est le plus important, c'est la liberté. La seule chose que je veux, c'est la liberté. Alors, avant de manger, nous disons, cher Sangha, mangez de manière que vous ayez la joie et le bonheur. Si nous mangeons et nous laissons ces liens nous ligoter, alors, même si nous sommes assis avec la Sangha, c'est comme si nous n'étions pas assis avec la Sangha. Parce que nous ne sommes pas heureux. Tandis que les autres, à chaque cuillerée, à chaque respiration, ils sont heureux. Et nous, nous ne le sommes pas. C'est parce que nous ne sommes pas libres. C'est pour ça qu'il faut, faire quelque chose pour être libre. Il faut manger de manière d'avoir la liberté en premier. Ensuite, la fraternité. Parce que la fraternité nourrit. Entre un couple, il faut la fraternité. Dans la culture vietnamienne, la femme appelle son mari An, ce qui signifie grand frère, et le mari appelle sa femme Em, petite sœur. C'est amusant. Parce que entre un couple, il faut la fraternité. Et c'est pareil entre père et enfant. L'autre personne est notre fils, mais il peut être aussi notre frère, notre collègue. Il y a les couples père et fils qui jouent ensemble comme deux frères. Il y a des mamans et filles qui jouent ensemble comme des sœurs. Et entre maître et disciple sont pareils. Ce sont des frères, des sœurs. Et les disciples et le maître peut partager son rêve avec ses disciples et les disciples peuvent la même chose. Et c'est pour ça, entre eux, il y a la fraternité. Il y a les disciples qui sont à la fois disciples, mais aussi jeunes sœurs ou jeunes frères. Et en vietnamien, disciple et des te et des signifie frère et te signifie enfant. Et donc, entre maître et disciple, il y a aussi la fraternité. Sans la fraternité, il n'y aurait rien. Avec la fraternité, on est bien nourri, on est heureux et on peut organiser plein de choses au bénéfice des autres. C'est pour ça, le plus important dans un centre de pratique, c'est de vivre ensemble de manière qu'on puisse générer la fraternité. La fraternité est notre fondement. sans fraternité, nous n'avons pas assez de fondement et sans fond, nous ne pouvons pas investir. C'est pour ça, vivre ensemble, chaque jour, nous devons générer la fraternité parce que c'est notre fond. Plus le fond est important, plus le bénéfice nous pouvons récolter. Et ces bénéfices ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Quand nous organisons une retraite pour 1000 personnes et nous avons la fraternité, cette fraternité peut transformer la conscience collective de tous nos retraitants qui viennent pratiquer avec nous et sont en contact avec nous. Ils se transforment. Ce n'est pas seulement grâce aux enseignements, mais grâce à notre manière de marcher, de parler et aussi notre fraternité. Alors, au village des Pruniers, les frères et sœurs, les amis long terme n'ont pas de salaire. Mais ils travaillent beaucoup et au lieu d'avoir le salaire, ils ont la fraternité, ils sont nourris par cette fraternité. Et plus la fraternité est grande, plus leur carrière est grande, leur carrière d'aider le monde. Organiser une journée de pleine conscience, organiser une retraite. Et c'est pour ça, pour investir dans une carrière, dans un avenir, il nous faut la liberté et la fraternité. Et bien sûr, troisièmement, c'est le bonheur. Alors, au repas, nous lisons les cinq contemplations et avant de les lire, nous avons l'introduction. Cher Sangha, mangez de manière que vous ayez la liberté, la fraternité et le bonheur tout au long du repas. Ainsi, le repas est nourrissant. Nous ne sommes pas nourris seulement par la nourriture comestible, mais également par ces trois énergies, c'est-à-dire l'énergie de la liberté. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde court, même pendant le repas. Ils mangent très vite pour finir le repas, pour faire d'autres choses. Mais ici, plus on mange lentement, mieux c'est. Parce que quand on mange doucement, lentement, on a plus de temps ensemble. En France, il y a un yaourt et ils font la publicité. Mange doucement, mangez doucement pour que ça dure longtemps. Si on mange vite, ça ne dure pas longtemps. Et tout de suite, on finit. Il faut savourer chaque cuillerée. Il faut vraiment ressentir que ça fond dans la bouche. Et la fraternité pendant le repas est pareil. On ne parle pas, mais on est conscient qu'on est à côté de ses frères, de ses sœurs. On choisit d'être frères et sœurs. On vient ici pour devenir frères et sœurs. Alors non seulement on est nourri par la nourriture comestible, mais on est nourri par cette fraternité et on mange tranquillement pour voir que manger, c'est la pratique. On mange de manière à être libre. Est-ce que vous êtes libre pendant le repas? vous avez la nourriture, vous êtes assis parmi nous, mais on ne sait pas si vous êtes vraiment libre ou bien vous pensez à mille et une choses, vous avez des soucis, vous êtes en colère. Alors vous ne mangez pas la nourriture, mais vous mangez votre colère, vos soucis, et ça ne vous aide pas. Et ce n'est pas sain pour votre santé. Au lieu de manger la nourriture, la liberté, la fraternité, vous mangez votre colère, votre haine. Vous pratiquez seulement avec la forme. Alors, le repas est un défi, une épreuve. Mangez de manière que pendant 40 minutes, toutes ces 40 minutes, vous êtes libre, vous avez la fraternité, vous êtes heureux. À midi, nous allons manger comme ça. Est-ce que vous arrivez à manger comme ça? C'est un défi. Si vous y arrivez, alors vous réussirez également à la marche méditative et vous réussirez également quand vous travaillez. Parce que quand vous travaillez, vous avez le bonheur, vous avez la fraternité, vous ne vous plaignez pas. Et ainsi vous pouvez aider les autres. Sinon, vous n'avez rien à offrir. Vous n'avez rien à offrir aux autres. Rien. Si vous faites attention, vous verrez également qu'avant le chant, nous lisons la contemplation, respirons ensemble comme un organisme, C'est-à-dire, en respirant, nous voyons la présence de nos frères et de nos sœurs. Quand nous inspirons, les autres inspirent également. Quand nous expirons, les autres expirent. Quand nous inspirons, nous calmons notre corps et notre esprit. Pendant ce temps, nos frères et sœurs font la même chose. Ils inspirent, ils expirent, ils calment leur corps. Alors quand nous faisons cela, En tant que communauté, c'est clair que nous voyons clairement la fraternité. On entend un son de la cloche et tout le monde arrête toute pensée, tout le monde arrête de parler et tout le monde prête attention à son inspiration, à son expiration. On calme son corps, on inspire. On calme son corps et on expire, on sourit. Et des centaines de personnes comme ça font la même chose. L'énergie de la pleine conscience devient très puissante. Et c'est la synchronisation. Et c'est ça la nourriture. Dans cette communauté, on se transforme, on respire au sein de cette communauté et on peut ressentir la paix. Et c'est en respirant qu'on génère l'énergie de la paix. On crée cette énergie collective et on se nourrit les uns les autres avec cette énergie. En respirant, on nourrit son frère, sa sœur. Quand nous venons ici, nous pratiquons et nous devenons frères et sœurs. Si nous respirons avec la paix, la joie, le bonheur, alors cette joie et ce bonheur ne sont pas seulement en nous, mais chez les autres aussi. C'est pour ça, en pratiquant comme une communauté, nous nous nourrissons avec cette énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde, et ce qui apporte la liberté, la fraternité. Cher Sangha, respirons comme un organisme. Chantons comme un organisme. Il n'y a plus de soi séparé. On coule comme une rivière. On va comme une rivière et pas comme une goutte d'eau. Et quand on s'intègre dans la Sangha comme ça, toute sa souffrance est embrassée par cette énergie collective et on se sent beaucoup plus léger. Mais si on se comporte comme une goutte d'eau, alors sa souffrance reste intacte. C'est pour ça, assis dans la Sangha, marcher avec la Sangha, nous devons respirer comme un organisme, nous devons respirer, chanter avec la Sangha comme un organisme, nous devons écouter comme un organisme. Et le symbole du village des pruniers, c'est aller comme une rivière et non pas comme une goutte d'eau. Si vous allez comme une goutte d'eau, vous devez toujours garder votre propre souffrance. Mais si vous vous fiez à la Sangha, si vous laissez la Sangha vous embrasser, vous guider, alors vous avez la chance de vous transformer parce que l'énergie collective de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde, de la liberté, de la paix, vous pénètre et vous aide à vous transformer. C'est pour ça, la prise de refuge chez le Bouddha ne suffit pas dans le Dharma, ça ne suffit pas, mais il faut prendre refuge dans la Sangha. Et si nous voulons que notre pratique dure, il faut prendre refuge dans une sangha. Et si nous n'avons pas de sangha, il faut chercher à en créer une. Alors, avant une méditation assise, nous chantons également. Pour le chant du soir, assis solidement au pied de l'arbre de la Bodhi. Cela signifie que je suis assis ici comme le Bouddha Shakyamuni qui s'assoit au pied de l'arbre de la Bodhi. Je m'assieds solidement et ce que j'ai à faire, c'est de calmer mon corps, mes paroles et mes pensées. Les trois domaines des actions. Pour les paroles, je me tais, je ne dis rien. Pour les pensées, je ne réfléchis plus. Je calme mon mental, assis solidement au pied de l'arbre de la Bodhi. Mon corps, mes paroles et mes pensées sont calmes. Alors, mon corps est solide et mon corps, mes paroles, mes pensées sont calmes et il n'y a plus de pensée de bien ou de mal. C'est-à-dire, je ne pense plus que moi j'ai raison, toi tu as tort. Il n'y a plus de pensée de bien ou de mal. parce que dans notre vie quotidienne, nous sommes ligotés par ces liens. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Tu as causé beaucoup de souffrance à moi-même. Tu m'as causé beaucoup de souffrance. Tu es responsable de toute cette souffrance. Et nous sommes ligotés par toutes ces pensées. Moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Mais pendant l'assise, il n'y a plus du tout ce genre de pensée. Alors, les premières respirations au début d'une méditation assise, tout de suite, on doit faire ce travail. On s'assoit solidement, avec une posture bien solide, on fait quelques respirations et on arrête de penser qui a tort, qui a raison. Et corps, parole et esprit sont en pleine conscience. Et nous avons la lumière de la pleine conscience pour éclairer, pour voir clairement notre visage originel. Et nous pouvons quitter cette rive de la souffrance pour aller à l'autre rive de la liberté, de la libération. Alors ce chant, avant la méditation assise du soir, ou bien avant la méditation assise du matin, tout à l'heure, tous ces chants sont des rappels. Si nous sommes assis et nous ne contemplons pas, nous n'utilisons pas ces chants pour regarder profondément, ce serait dommage. Il faut laisser ce chant pénétrer notre corps, notre système nerveux, il faut laisser ces chants traverser tous ces synapses pour entrer dans nos neurones. Ce frère chante et puis moi je reste assis ici imperméable. Non, il faut laisser ce chant pénétrer notre corps. Alors, il y a de telles pratiques au village des Pruniers. Avant la marche méditative, nous faisons aussi un cercle pour chanter quelques chansons. Ces chansons de méditation nous guident dans la marche. Ce n'est pas pour chanter, pour s'amuser. Non. Nous ne chantons pas simplement pour nous amuser. Nous chantons pour nous guider dans la méditation. Si nous sommes heureux ou non, ça dépend de notre façon de marcher. Alors, chaque pas est légendaire. Chaque respiration est légendaire. Est-ce qu'on y arrive? Si on y arrive, ça entre dans nos neurones et ça établit de nouveaux chemins pour nos neurones. Au lieu d'utiliser les anciens chemins, nous traçons de nouveaux chemins. Et quand nous allons sur ces nouveaux chemins, nous allons au bonheur. C'est pareil quand nous écoutons le son de la cloche, quand nous sommes habitués, dès qu'il y a un réveil de cloche, tout de suite, sans effort, nous pouvons arrêter toute pensée, toute parole, et nous revenons à notre respiration consciente. C'est comme ça au village des Pruniers. Nous ne faisons même plus d'efforts. Ça devient les anciens chemins. Dès qu'on entend le son de la cloche, on arrête tout et on revient à sa respiration consciente. On calme son corps, son esprit. c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est l'apprentissage et l'entraînement de notre conscience du Tréfonds. Quand nous pratiquons, nous nous nourrissons avec la liberté, la fraternité, le bonheur, en marchant, en nous tenant debout, en nous asseyant, en faisant la vaisselle. Et quand nous nous nourrissons, une fois que nous avons réussi à nous nourrir, nous pouvons nourrir les autres. Nous nourrissons les personnes que nous aimons, comme nos enfants, notre mari, notre femme, nos amis, nos frères et nos sœurs. Dans les sutras, il y a une phrase, il y a quelque chose, il y a une chose. Depuis la nuit des temps, ces deux phrases parlent de notre conscience du Tréfonds. Yoi signifie une réalité. Il y a une chose. Qui vient du non-commencement. Ici, nous parlons de l'alaya, de notre conscience du Tréfonds. Store consciousness en anglais. C'est ça. L'alaya vient du non-commencement. Et qu'est-ce que c'est cette chose? C'est le lieu d'appui, le lieu de refuge de tout. Alors, cette chose est la conscience du Tréfonds, et l'alaya est le cosmos et la réalité des choses. Et c'est cette chose qui et nous avons appris les semaines passées que sa nature est non voilée. L'alaya, voilée par quoi? Voilée par l'ignorance. c'est l'équivalent de la conscience du tréfonds, c'est l'équivalent de la réalité ultime. L'incité. La chose en soi. Il n'est pas voilé par les notions comme le commencement ou la fin, l'être, le non-être, le bien, le mauvais. Pur, impur. Il n'est pas voilé par la discrimination, c'est-à-dire l'ignorance. Avidya, en sanskrit, signifie l'ignorance. Il n'y a pas de commencement en réalité, il n'y a pas de fin, ni être, ni non-être. Ni bien, ni mal, ni pur, ni impur. C'est la nature de l'alaya. Il faut décrire l'alaya comme une réalité telle qu'elle. Nous avons compris que à cause de nos actions, l'alaya se manifeste. Notre conscience du tréfonds se manifeste en tant que corps et environnement. Dans le bouddhisme, il y a le terme rétribution. Nos actions apportent des fruits, la rétribution. Et il y a deux sortes de rétribution. C'est la rétribution principale, qui est notre corps. Et la deuxième rétribution, c'est notre environnement. Alors, dans la vision bouddhiste, nous ne sommes pas seulement notre corps, mais nous sommes également notre environnement. Et l'alaya est d'abord la manifestation de ces deux choses. Il se manifeste en beaucoup de choses, mais premièrement, il se manifeste en notre corps et notre environnement. Nos cinq agrégats sont la manifestation la plus proche, et ceci nourrit l'autre. C'est pour ça qu'il y a une relation étroite entre le corps et l'environnement. Alors, nous pouvons appeler ça comme nature and nurture en anglais. et ces deux choses s'appuient l'une sur l'autre. Et nous avons appris que la conscience du tréfonds est le lieu de refuge de toutes les autres choses. Ce n'est pas le lieu de refuge de notre corps physique seulement, mais aussi de notre environnement. Dans la société, la neurologie, ils ont parlé également de l'équivalent, mais ils ont découvert seulement une petite partie de l'alaya et ils appellent ça comme la conscience de l'arrière-plan, the background consciousness en anglais. C'est la conscience, mais elle n'est pas le mental, la conscience du mental. La conscience du mental qui fonctionne quand nous sommes éveillés, Manovijnana en sanskrit, la conscience du mental vient de la conscience du tréfonds, monte de la conscience du tréfonds qui est la fondation. Et à partir de la conscience du tréfonds, la conscience du mental se manifeste. Et cette conscience a son objet. Son objet peut être plus petit que l'objet de la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds embrasse toutes les choses. Mais la conscience du mental a son propre objet. Quand nous regardons la montagne, l'objet de notre conscience du mental est la montagne. Et quand nous sommes en colère, son objet est la colère. Et quand nous dormons, notre conscience du mental ne fonctionne plus. Quand nous dormons bien et nous n'avons pas de rêve, alors la conscience du mental ne fonctionne pas. Quand notre conscience du mental est dans l'état de dispersion, quand nous pensons à mille et une choses, c'est l'état général de notre esprit. Nous pensons à mille et une choses. C'est l'état de dispersion. C'est la dispersion. Et quand nous focalisons notre esprit dans quelque chose, par exemple dans la respiration ou dans un problème de mathématiques, alors nous avons la concentration. Et la conscience du tréfonds est dans l'état concentré. Et quand nous entrons dans le samadhi, dans la concentration, alors notre conscience du mental est dans l'état de concentration. Et quand la conscience du mental travaille ensemble avec les consciences des organes sensoriels, nos cinq organes sensoriels ont cinq consciences, et quand la conscience du mental travaille avec ces cinq consciences, par exemple, quand nous écoutons l'enseignement, nous devons utiliser la conscience de nos oreilles, et notre mental travaille avec cette conscience de l'ouïe. Alors, dans ce cas, la conscience du mental est dans l'état de Mukau en vietnamien, c'est-à-dire il travaille en collaboration avec les autres consciences des organes sensuels. Alors, la conscience visuelle, la conscience du nez, la conscience des oreilles, la conscience tactile, la conscience du goût. Nous avons cinq consciences des cinq organes sensoriels. Et quand nous fermons toutes les cinq organes sensoriels et notre conscience du mental travaille seule, c'est quand, lorsque nous réfléchissons ou quand nous contemplons, nous réfléchissons sur quelque chose d'abstrait, alors notre conscience du mental travaille seule. Dok Dao en vietnamien. Le sommeil, si nous rêvons, notre conscience du mental est dans l'état de mantum, c'est-à-dire dans le rêve. Ou parfois, la conscience du mental cesse de fonctionner, c'est quand nous dormons profondément. quand nous entrons dans un samadhi, dans un état de concentration de la non-forme, elle cesse aussi de fonctionner, ou bien quand nous entrons, quand nous sommes dans le coma. C'est pareil. Ou bien, quand nous quand nous tombons dans l'évanouissement, ça cesse de fonctionner. Alors, au début, nous croyons que nous avons seulement nous avons seulement la conscience du mental. Mais si la conscience du mental cesse de fonctionner, nous ne pouvons pas vivre. Et nous découvrons qu'en dehors de la conscience du mental, il y a d'autres choses. C'est la conscience du tréfonds. Et aujourd'hui, la neurologie appelle cela la conscience de l'arrière-plan. Et nous savons très bien que la conscience du tréfonds a la capacité d'apprendre grâce à la conscience du mental, et l'apprentissage devient des habitudes. La conscience du tréfonds est un dépôt. C'est comme notre disque dur dans lequel nous pouvons garder plein de data, plein de choses. Alors, pendant notre pratique, pendant le repas, pendant la marche méditative, pendant le chant, nous utilisons notre conscience du mental pour créer des nouveaux chemins de neurones au début. Nous pouvons nous souvenir de suivre la respiration consciente pendant quelques secondes, quelques minutes. Par exemple, nous entendons la première ligne du chant, assis solidement au pied de l'arbre de la Bodhi, corps, parole et esprit calme. Nous comprenons, nous pouvons suivre notre respiration consciente pendant quelques secondes. Nous avons créé un nouveau chemin pour nos neurones. Et le lendemain, nous entendons encore ce chant. Et cette fois, puisque nous avons déjà ce chemin, nous pouvons le suivre et nous pouvons suivre notre respiration consciente plus longtemps. Notre mémoire n'est pas un sac dans lequel nous avons tous les souvenirs, mais il y a plein de chemins. Les chemins à suivre. Quand nous sommes nés et nous devenons enfants, nous avons assez de neurones déjà dans notre cerveau pour apprendre. Si nous buvons du lait à une certaine heure précise, quand l'heure arrive, tout de suite, nous voulons du lait. même si nous ne connaissons pas encore exactement les bruits, tous les bruits, mais en tant que bébé, dès que nous entendons le bruit, nous savons que maman s'approche. Dès que nous entendons le bruit des pas, nous savons que c'est maman qui arrive. Et grâce à ces habitudes, dès qu'on entend ces bruits, on est très content, on sait que maman va apparaître. C'est pour ça, pendant la marche méditative, chaque pas en pleine, chaque fois, quand on fait chaque pas en pleine conscience, on crée un chemin pour nos neurones. Et quand on fait un deuxième pas dans la joie et dans le bonheur, alors ce deuxième pas devient plus facile, et puis le troisième pas devient encore plus facile. Et tous les apprentissages sont pareils. C'est pareil quand on apprend à conduire ou à jouer du ping-pong. La première fois, on doit tracer un chemin. Et puis quand on continue, le chemin est tracé plus clairement et plus profondément, et puis ça devient plus facile. Et quand on maîtrise la conscience du tréfonds, continue le travail sans la conscience du mental. C'est quand vous conduisez, vous réfléchissez à mille et une choses, et pourtant vous pouvez conduire sans réfléchir. Et c'est la conscience du tréfonds qui conduit. Et la conscience du tréfonds réagit beaucoup plus vite que la conscience du mental. Les neurologues disent aujourd'hui que la conscience du tréfonds est la base de la conscience du mental, et la conscience du mental consomme beaucoup d'énergie. Au contraire, la conscience du tréfonds consomme très peu d'énergie, mais elle travaille très bien. Quand nous faisons la cuisine, quand nous conduisons, la plupart du temps, nous laissons notre conscience du tréfonds travailler, faire le travail. La conscience du mental travaille beaucoup moins. Elle consomme beaucoup d'énergie, mais elle est plus lente. D'un côté, elle est très rapide et elle n'est pas coûteuse. L'autre côté, la conscience du mental est très coûteuse et beaucoup plus lente. Quand nous ne pratiquons pas seulement avec notre conscience du mental. Quand elle enseigne quelque chose, notre conscience du mental le reçoit et le sème dans la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds est comme un terrain. Quand nous semons quelque chose, nous pouvons oublier, mais la conscience du tréfonds continue à travailler avec cette semence. Par exemple, ce matin, dans la rue, Nous avons vu quelqu'un qui a l'air très familier. Nous avons l'impression que nous connaissons son nom, mais nous l'avons oublié. Nous cherchons à fouiller dans notre mental. Quel est son nom? Depuis longtemps, on ne l'a pas vu. Et dans nos neurones, il y a ce nom. Mais nous ne nous souvenons pas. Alors, nous laissons tomber. Nous abandonnons, nous faisons d'autres choses. Nous allons au lit et puis le lendemain matin, en nous brossant les dents, tout à coup, son nom apparaît dans notre tête. C'est le travail de la conscience du tréfonds. Et l'éveil d'un pratiquant est pareil. Nous sommes éveillés non pas grâce à la conscience du mental. Oui, j'ai compris. Non, c'est la conscience du tréfonds qui nourrit Kuan. Un Kuan, c'est un problème, une question que Tai nous a transmis, que Tai nous a donné, et nous devons... La conscience du mental doit enterrer cette question dans le terrain de la conscience du tréfonds. Et tous les jours, on l'arrose. Et il faut avoir la confiance dans la terre. Et un jour, la terre va faire germer cette graine et ça pousse. Et c'est ça l'éveil. L'éveil peut arriver subitement. Un jour, on trébuche ou bien on entend un bruit et tout à coup, on est éveillé. C'est l'éveil subit. C'est l'éveil subi. Et ça ne vient pas de la conscience du mental, mais plutôt de la conscience du tréfonds. C'est pour ça, quand nous pratiquons, nous devons savoir utiliser notre conscience du tréfonds. La conscience du mental est le jardinier, et la conscience du tréfonds est le jardin, et la terre. Conscience du tréfonds appuie sur le corps physique et l'environnement. Dans le corps physique, il y a le cerveau, et dans ce cerveau, il y a des milliers de neurones. Et puis il y a le système nerveux et la conscience du mental. S'appuie premièrement sur la conscience du tréfonds pour se manifester. Mais comme la conscience du tréfonds, elle doit s'appuyer sur le corps physique, sur le cerveau. Et autrefois, quand nos patriarches ont commencé à enseigner la manifestation seule, la biologie n'était pas encore développée. Mais aujourd'hui, la biologie est bien développée. C'est pour ça que les pratiquants doivent profiter de la biologie pour comprendre mieux notre conscience. C'est pour ça, dans l'avenir, les moines, les moniales doivent apprendre la biologie aux jeunes frères et jeunes sœurs, comment ça fonctionne, comment les neurones fonctionnent, parce que quand nous connaissons la biologie, notre vision de la conscience, notre compréhension de la conscience sera plus profonde. Alors la conscience du mental s'appuie sur la conscience du tréfonds et sur une autre conscience qui est le manas, la septième conscience. Alors, nous avons d'abord les cinq consciences, les cinq organes sensoriels, et puis la sixième organe qui est la conscience du mental, et puis la septième, le manas, et la huitième, la conscience du tréfonds. Alors, la conscience du tréfonds s'appuie sur le corps physique et l'environnement, et la conscience du mental s'appuie sur la conscience du tréfonds, donc sur le corps physique et l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut connaître, il faut avoir assez de connaissances sur la biologie, la neurologie, pour comprendre profondément la conscience. Nous continuerons jeudi prochain.